Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Auditeurice de Nantes ou d'ailleurs, bienvenue sur la planète de la Ligue des droits humains section Nantes, autrement dit la LDH nantaise. Bienvenue au bar Personne, encore et toujours au croisement de la rue Coulmier et de la rue d'Allonville. Personne qui rime avec apéro, pizza, frichti, pétanque, restaurant, cave, concert, jam session, stand-up et un coup de cœur à venir pour le 8 mai prochain, un concert de Alex Devre et de Erwan Lefichant pour un concert blues folk. En attendant, nous allons aujourd'hui aborder le sujet tout à fait apolitique, la lutte contre les idées d'extrême droite. Est-ce que la politique se droitise ou est-ce que la société civile glisse? Ou bien les deux? Toujours est-il que les idées d'extrême droite s'insinuent dans notre quotidien depuis quelques années déjà. Nous en voyons les effets dans des mesures locales comme nationales. Alors partons ensemble aujourd'hui décrypter ces mesures et comprendre comment s'en prémunir. Pour nous emmener dans cette chronique, Élodie et Nathalie seront nos guides. Philippe, adhérent à la LDH 44 et membre du collectif de lutte contre les idées d'extrême droite à Nantes, Christine, membre du collectif du même collectif à Châteaubriant, et Bernard, toujours membre du collectif à Nantes ainsi que de la FSU, seront nos décrypteurs et décrypteuses. Cette chronique est aussi l'occasion de rappeler ce qui s'est passé le mois d'avril dernier. Nathalie, Élodie, c'est à vous.
Les écrits de la fraternité sont organisés chaque année par la LDH. Le thème, cette année, était « Les frontières ne sont pas là pour nous diviser ». La section locale a choisi, parmi des dizaines d'œuvres reçues, le très beau travail collectif de lycéens du lycée professionnel Michelet à Nantes. Des poèmes inspirés par des photos prises dans le Boulonnais autour de Calais. Certains de ces lycéens pourront, s'ils sont sélectionnés par le jury national, se rendre à Paris pour recevoir leur prix.
Suite à l'expulsion d'une famille géorgienne, un rassemblement a été organisé à l'initiative de la communauté éducative, de plusieurs organisations, dont la LDH et la FSU, devant le collège Aliende de Rezé. 300 personnes étaient présentes. Une réunion unitaire a eu lieu le 30 avril pour continuer à soutenir les familles expulsées et parfois séparées, qu'elles soient à Rezé, à Saint-Herblain ou ailleurs.
Au niveau national, suite à une saisine de la LDH et d'autres associations, le Conseil constitutionnel a censuré la prolongation de la vidéosurveillance algorithmique qui avait été instaurée pendant les JO et dont la prolongation a été votée dans la loi visant à renforcer la sûreté dans les transports.
Et nous terminerons par la victoire du tribunal administratif le 3 avril 2025. Action commune, LDH, SAF, Syndicat des avocats de France et Syndicat de la magistrature, qui marque la suspension de la note du directeur départemental de la police nationale, instaurant un fichier transitant entre la préfecture et les services de police visant les étrangers en situation régulière gardés à vue.
Philippe, suite à la condamnation de Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité immédiate, il y a eu des attaques à l'encontre des magistrats venant particulièrement de l'extrême droite. Quelle a été la réaction de la LDH suite à ces attaques ?
Le problème n'est pas seulement l'extrême droite, l'existence du Rassemblement national ou des autres forces politiques d'extrême droite. Le problème, c'est que les idées des extrêmes droites et SM. Je donnerai deux exemples. La circulaire Retailleau sur la question du séjour des étrangers qui vise à dégrader les conditions de séjour des étrangers et qui vise à augmenter le nombre d'expulsions du territoire. Ces idées-là sont reprises au plus haut niveau de l'État. Je cite le Premier ministre François Bayrou, j'ai là sa formulation sous les yeux, hein, le 27 janvier, la France approche d'un sentiment de submersion migratoire. Bon, et pour répondre à ta question, Nathalie, sur, sur l'affaire des détournements de fonds par le Rassemblement national, celui-ci a qualifié cette affaire-là de complot et de gouvernement des juges, je cite. Hein. Ce qui est inquiétant, par-delà le fait que ces expressions de l'extrême droite, c'est que cette critique d'une décision judiciaire a été reprise et relayée par des élus et des responsables politiques d'autres partis. Et ça, c'est très grave, parce que c'est mettre en cause l'état de droit, c'est-à-dire l'indépendance de la justice et l'égalité de tous devant la justice. Et cette affaire-là nous a conduit, les uns les autres, avec nos amis de la FSU et avec une série d'autres organisations associatives et syndicales, à Nantes, comme sur le territoire national, a appelé le 12 à des rassemblements pour la défense de l'état de droit.
À quel endroit, symboliquement?
Alors, bonne question, Nathalie. Effectivement, ça ne nous arrive pas toujours, pas souvent. On a justement décidé, ça a été le cas dans beaucoup de villes de France d'ailleurs, de faire ce rassemblement devant le palais de justice de Nantes.
Alors pourquoi ce lieu?
Justement, parce qu'il s'agissait de défendre l'état de droit, donc de défendre une justice indépendante, et donc effectivement de se mettre en rempart face à cette remise en cause frontale de l'état de droit.
Les idées d'extrême droite, elles progressent en France, mais pas seulement.
Alors oui, on pourrait reprendre, oui, alors, si on veut rebondir sur ce qui vient d'être dit, chacun aura noté, c'est quand même important, hein, que cette critique, enfin cette attaque, c'est même pas cette critique, cette attaque frontale, pour reprendre le mot, de l'extrême droite face à un jugement qui est considéré que Marine Le Pen et les responsables en question du Rassemblement National avaient commis un délit et étaient donc des délinquants, ces formules de complot de gouvernement des juges ont été relayées au niveau international et de manière publique et forte par des gens comme Trump, Orban, Salvini et d'autres. Poutine, bon, c'est quand même une situation qui est nouvelle. Depuis maintenant quelques années, on voit l'existence d'une internationale des idées des extrêmes droites qui veut peser pour que chaque pays aide leurs représentants au niveau des autres pays. Il y a quand même là quelque chose qui est inquiétant.
Oui, Bernard, tu voulais ajouter ?
Il n'y a pas que l'aspect politique de la chose. Il y a aussi, depuis 3-4 ans, des grands patrons qui ouvertement s'associent avec l'extrême droite pour leurs propres intérêts, mais aussi parce que c'est leur idéologie. Alors on a ça aux États-Unis avec
Musk
et puis les GAFAM, mais on a ça aussi en France avec Sternin, mais pas que lui. On a aussi Bolloré et les médias. Sternin. On a aussi Bolloré avec tous les médias. Et on voit bien que là, ce qu'on pourrait appeler la fachosphère, elle prend de plus en plus de place dans le paysage. Et c'est ça qui devient réellement inquiétant.
Alors, si on parle de Sternin en particulier, il me semble qu'il y a un événement qui va être organisé à la Cité des Congrès à Nantes le 5 juin. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Le 5 juin, Sternin arrive avec sa nuit du bien commun, où il va faire sa publicité. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est en train de rechercher des terrains en Sologne et en Normandie pour créer des écoles hors contrat, mais qui sont sur une logique conservatrice, réactionnaire, homophobe, et que pour avoir ça, il aura besoin des collectivités locales pour pouvoir s'implanter. Il aura besoin aussi de l'éducation nationale, parce qu'un établissement sous contrat, il faut savoir il faut quand même qu'il soit validé par l'éducation nationale, sinon on ne peut pas y enseigner. Donc oui, voilà, on a un exemple très, très concret de ce que l'entrepreneuriat arrive à faire en faveur de l'extrême droite, avec lui comme objectif qu'en 2026, l'extrême droite remporte plus d'une centaine de municipalités.
Ce qu'ils appellent le projet Périclès, c'est ça ?
C'est exactement ça. C'est construire une structure de formation pour former les futurs élus d'extrême droite, mais aussi les futures équipes qui ne seront plus des skinheads à tabasser les couleurs d'affiches de la gauche, mais qui seront des formateurs plus propre sur eux ou plus propre sur elles pour pouvoir porter l'extrême droite aux mairies.
Alors à ce propos, Philippe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des diverses formes que l'extrême droite revêt, hein? On parlait, Bernard a évoqué les skinheads, il n'y a pas que le Rassemblement National, bien évidemment. Et...
Oui, alors, les idées racistes, masculinistes, antisémites, ont de plus en plus pignon sur rue. Et à partir du moment où les idées progressent, elles débouchent ou elles favorisent, elles permettent des actes violents. Bon, là, ici, pas loin d'ici, rue Gambetta, il y a eu des tags racistes encore, je crois ici, c'était fin janvier. Bon, on a eu, il y a quelques jours, dans un bar à Nantes, une attaque de plusieurs personnes munies au moins une d'un bâton télescopique et de grenades, enfin pas de grenades, pardon, de bombes lacrymogènes à main. Donc ces personnes ont attaqué la terrasse du bar en question, après avoir voulu poser des autocollants, qui étaient des autocollants du RAID, c'est-à-dire Rassemblement des étudiants de droite, et du collectif du 9 mai, qui sont des collectifs ou des structures qui sont clairement, je pense pouvoir l'affirmer, des collectifs qui sont des groupes d'extrême droite, identitaires, violents. Bon, je prends ces exemples-là. Et de toute façon, sur le fond, depuis plusieurs années, et l'affaire se renforce aujourd'hui, on peut parler d'une articulation entre, d'un côté, l'extrême droite des partis des partis officiels, je qualifierais de cravatés, et des groupes violents, des groupes identitaires, des groupes d'extrême droite. Je prendrai un exemple concret dans le pays nantais, c'est ce qui s'est passé à Saint-Brévin, où, par rapport au déménagement du centre d'accueil des demandeurs d'asile, je ne reprends pas toute l'histoire, mais si on revoit les affaires dans les quelques années qui ont précédé, il y avait eu une campagne du RN et du parti de Zemmour contre l'accueil et la mise en place de centres d'accueil des demandeurs d'asile dans la commune. Et à la suite de ça, on a eu à plusieurs reprises des rassemblements de groupes identitaires qui sont venus quand même à plusieurs centaines dans la commune de Saint-Brévin, avec à la clé des actes violents qui ont notamment conduit à l'incendie de la voiture, enfin des voitures et du pignon du maire de Saint-Brévin qui a à la suite démissionné.
Je peux enfin prendre du repos, j'ai dégoté le soleil. S'il se couche sur une bière, c'est la mer. S'il n'est pas fou, c'est une merveille qui met le cafard en état de guerre. Sûr, c'est pas du pôle Nord, son sourire brûlant. Son voyage n'est que d'ici. On le croit d'ailleurs, c'est marrant. Lui qui pensait n'avoir qu'une vie. Imagine. Si Majid s'en va, et nos rêves, qui dont les boira. On a tout regardé, mon grand frère sans papier. On a rêvé tous les mélanges. Je n'aurais jamais parié qu'un jour on dirait que tu déranges. Voici l'heure, ma grande gueule, de faire taire ton honneur. Toi qui portais la tête haute, t'apprendras tes chaussures par cœur. Les flics du métro savent ta faute. Imagine, si Majid s'en va, et nos rêves, qui dont les boira. Pareil qu'il y en a qui veulent charteriser à Kaddou, qu'on veut virer notre prince arabe, qu'on orphelinise donc sa cour, qu'on le perde dans un panier de crabes, et nos larmes amères couleront le pays. On n'a pas le cœur en map monde. Qui peut prétendre trier nos vies, affûte les armes de la fronde, imagine.
On a vu donc toutes ces actions qui ont eu lieu. Et alors justement, comment la Ligue, la LDH, la section nantaise, s'engage-t-elle sur le terrain contre ces idées d'extrême droite et ces actions
ont été mis en place depuis plusieurs années différents collectifs, parce qu'on ne peut pas travailler seul face aux idées d'extrême droite. Bon, en 2023, avait été mis en place le CLESED, enfin, coller, c'est un acronyme d'un nom un peu compliqué, collectif de lutte ensemble pour les droits et les libertés, pour dire on est pour, contre les idées et les violences des extrêmes droites, CLESED, bon, qui est destiné à identifier, débusquer et identifier les idées d'extrême droite à l'œuvre, quelles que soient les personnes qui les portent et ou les politiques publiques qui les mettent en œuvre, les dénoncer et agir face. Bon. Là, il s'est passé quelque chose d'important l'année dernière, je dirais même de déterminant, aux élections législatives. Il y a eu une dynamique citoyenne très importante et une mobilisation de la société civile qui a conduit à ce qui s'est passé entre les deux tours notamment et qui a permis de faire barrage à la prise du pouvoir par le Rassemblement national. Cette dynamique-là, elle est entre guillemets, mais pas vraiment entre guillemets, historique. Et comment faire de prolonger cette dynamique, de la développer et de l'implanter dans la durée et en profondeur sur le terrain.
D'où l'importance justement du collectif.
Voilà,
on va rebondir là-dessus avec Bernard. Tu peux nous parler notamment du collectif unitaire qui a permis l'organisation d'une manifestation le 22 mars dans le cadre de la Journée internationale contre les discriminations raciales. Déjà, est-ce que tu peux revenir sur un peu l'origine de cette journée ?
Historiquement, c'est le 22 mars 1960 en Afrique du Sud où 69 personnes racisées noires sont tués par la police afrikaner, donc blanche. Donc c'est un acte, c'est une tuerie de masse sur des gens pacifistes qui sont venus demander des comptes par rapport à un convoi, par rapport à une chose qui se passe sur leur commune, dans un township à Sharpeville, qui en plus est connu pour être une agglomération assez pacifiste avec des gens qui travaillent. Et donc ça débouche sur cette tuerie de masse avec ce nombre de morts. Du coup, tous les 22 mars, au niveau international, il y a cette fameuse journée. Alors, le collectif qui regroupe associations, syndicats, a appelé à une manifestation. Il y a eu des manifestations partout, hein. Mais à Nantes, on a été agréablement surpris du nombre de personnes. Et je dirais, au-delà de ça, de l'effet de surprise, ce sont les gens qui étaient présents à cette manifestation. C'est-à-dire qu'on n'était pas face, entre guillemets, et sans caricaturer, aux professionnels des manifestations du samedi sur ces questions-là. On était sur un public très, très ouvert et relativement jeune, ce qui n'est pas toujours le cas.
D'autant qu'en plus, elle a été organisée très rapidement, en fait, cette manifestation.
Alors, on y a mis un peu de temps quand même à l'organiser, mais c'est vrai qu'on restait sur des échecs successifs en termes de nombre. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la population nantaise et les environs de Nantes a répondu présente. Et on voit bien que cette dynamique dont parlait Philippe pendant les élections législatives, c'est cette dynamique qui permet aussi de se projeter sur cette mobilisation. Mais cette mobilisation, elle nous oblige maintenant dans le collectif à en proposer d'autres parce qu'on est sur un combat de longue haleine et on ne peut pas être que sur du coup par coup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que le RN soit favori pour aller à Matignon le 22 mars. À un moment, il faut bien se poser la question de comment, sur le territoire national, mais aussi local, on intervient pour que les idées d'extrême droite reculent.
Ce qui veut donc propos, il y a le collectif organise une formation à l'argumentaire contre les idées d'extrême droite. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ce sera le mardi 17 mai, il me semble. Le samedi 17 mai, à la Maison des syndicats.
Oui. Moi, je prolonge ce qu'a dit Bernard. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit, faut qu'on arrête d'être sur la défensive et qu'on soit offensif. Il faut qu'on se dise, nous pouvons faire revenir sur un vote différent les 20% des personnes qui ont basculé dans le vote d'extrême droite. Enfin, les 20%. Il y aura un socle qui votera, mais on peut regagner 20%. Il faut se fixer cet objectif-là et agir sur le terrain pour empêcher que d'autres personnes basculent dans ce vote. Et aller sur le terrain, ça veut dire mener un combat des idées. Il y a une course de vitesse qui est engagée dans le pays comme dans le monde entre d'un côté des solutions autoritaire et xénophobe et de repli sur soi, et des solutions ouvertes sur le monde et solidaires. Cette course de vitesse-là, il faut qu'on la gagne.
Donc on voit bien que là, il y a une urgence. On parlait des actions où tu disais qu'on ne peut pas effectivement attendre le 22 mars une action une fois par an. Et il faut aussi s'armer de mots, d'où justement la formation. Alors est-ce que c'est une formation, cette formation pour lutter contre les idées d'extrême droite, elle est ouverte à tous et toutes ?
Oui. Formation... qu'on en a déjà fait une, on en refait une le 17 mai, pour mettre en confiance les personnes, aller sur le terrain, ça veut dire aujourd'hui, mener le combat d'idées, je l'ai dit, ça veut dire aller là où les gens sont, c'est-à-dire sur les marchés, à l'entrée des supermarchés, y compris même aller vers du porte-à-porte. Et là, par exemple, dimanche dernier, on a mené une action sur un marché, peu importe le lieu, enfin le marché de la Chapelle-sur-Erdre, parce qu'il y avait un contexte particulier. Bref, bon, peu importe, on se propose d'aller sur différents marchés, et on a fait ce qu'on appelle une action porteur de parole, c'est-à-dire on posait une question, en posant cette question-là sur un panneau, les réponses permettent d'engager la conversation et ensuite d'échanger, de se parler et donner un tract aux personnes qui le prennent.
Et est-ce que vous avez senti que les gens étaient réceptifs ? Est-ce que les gens acceptaient volontiers de répondre ?
Et ce qu'on a senti, c'est qu'il y a une perte de repères, il y a un déficit démocratique énorme. Les gens ne se sentent pas écoutés, reconnus, et qu'il ne faut pas que cette frustration démocratique, on la ressent partout, elle soit récupérée par l'extrême droite, mais qu'elle doit être prolongée par des propositions que nous avons à faire, nous, positives, pour aller dans un sens collectif et solidaire.
Bernard ?
Oui, les idées d'extrême droite, elles existent aussi dans le monde du travail, et il est important que dans le monde du travail, les organisations syndicales opposés à l'extrême droite, interviennent auprès des travailleuses et des travailleurs pour expliquer ce qu'est l'extrême droite. C'est pour ça qu'à Nantes, on a Visa 44, donc Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, donc CGT, Solidaire, FSU et le Syndicat des Avocats de France et des Avocates de France, le SAF, dont un des objectifs, c'est de former aussi des militantes et des militants pour aller sur les lieux de travail pour expliquer ce qu'est l'extrême droite au travail. C'est aussi une continuité de ce que fait déjà le collectif unitaire.
Voilà que ça commence.
Voilà, voilà. Nous voilà avec Christine, Christine de la LDH, qui intervient à Châteaubriant. Alors, est-ce que tu peux nous dire depuis quand la section intervient-elle à Châteaubriant et pourquoi un collectif sur ce territoire ?
Alors, en fait, sur ce territoire qui est quand même en milieu rural, et tout à l'heure, quand on parlait des grandes villes comme Nantes ou autres, il est aussi important d'intervenir dans les petites communes et petits villages, parce que malheureusement, c'est là aussi où les idées d'extrême droite sont en nette progression, alors que ce sont des villages très calmes et où il ne se passe pas grand-chose, mais où les gens, les habitants, ont quand même le sentiment d'insécurité. Et donc c'est un travail à faire aussi sur ce terrain. Après la Ligue, les réunions là ont lieu depuis mars, mais déjà l'année dernière, au moment des législatives, un collectif s'était créé, un collectif de citoyens, qui s'était appelé Réveillons la Résistance, qui avait fait une marche du château jusqu'à la carrière des fusillés, et qui avait mobilisé quand même, je ne sais plus le nombre, mais enfin c'était quand même assez important, pour dénoncer ces idées d'extrême droite et réveiller la population par rapport aux élections qui arrivaient. Quoi.
Et vous êtes nombreux dans ce collectif ?
Alors là maintenant, le collectif, donc moi étant membre de la Ligue et le collectif unitaire existant sur Nantes, on a fait le pont entre Nantes et Châteaubriant. Et oui, le 11 mars, il y avait quand même 50 personnes présentes et 25 à titre individuel. Et 25 autres représentants des associations, des syndicats. Voilà. Donc depuis, les réunions se poursuivent. Hier soir, c'était notre troisième réunion, avec des gens mobilisés. Des commissions se sont créées. Et on cherche effectivement comment intervenir sans être frontal, par rapport aux personnes qui peuvent, ou qui ont déjà basculé, ou qui sont dans le doute. Mais donc, en se servant bien évidemment des actions telles que sur les marchés ou faire du porte-à-porte, du tractage, ça va venir, mais aussi chercher des événements qui permettent de réunir la population, que ce soit festif, alors sur des thèmes, l'alimentation ou autre, pour réunir un maximum de personnes et dans ce cadre-là, faire des actions telles que porteurs de parole ou autres, pour pouvoir déclencher la discussion, l'échange et le partage.
Et donc, il y a déjà des idées de fêtes ou événements particuliers?
Oui, alors d'ici l'été, parce que malheureusement, les mois de août, juillet et août sont un peu plus compliqués pour organiser des choses. Mais donc, avant juillet, on s'attelle à organiser au moins une action sur un marché. Il y aura aussi une séance d'arpentage. On est peut-être plus dans l'entre-soi, mais c'est aussi important de se former et d'avoir une base, notamment argumentaire et autre, pour aller à la rencontre. J'allais dire au combat, mais il y a un peu de ça, mais bon. Et ça sera des petites actions, entre guillemets, d'ici l'été. Et à l'automne, on prépare une fête qui est relancée, qui a existé pendant plusieurs années déjà et qui s'est arrêtée en 2018, et qui est la fête de la soupe. Mm-hmm. Voilà, donc qui est
chacun
très...
mène sa soupe, c'est ça?
Ça se fait sur inscription quand même. C'est dans le lieu, tout ça, c'est encore à définir, c'est en discussion, mais ce qui permet, oui, effectivement, d'avoir des faiseurs de soupe, et la population est invitée à venir goûter. Et donc c'est aussi intergénérationnel, inter-tout. Et ça permet, enfin on espère, que ce sera un premier événement qui permettra de mettre en place d'autres actions pour aborder tout ça.
Toulouse et Sarrazine, Toulouse et Sarah, Arnaud Bernard lui gratine un avenir à la Rissa. Toulouse et Sarrazine, Toulouse et tout à la fois, Arnaud Bernard est concubine avec toutes les diasporas. Toulouse et Sarrazine, Toulouse et Sarah, Arnaud Bernard lui gratine un avenir à la Rissa.
C'est sur ces mots que s'achève notre chronique. Merci à Christine, Bernard, Philippe, Élodie et Nathalie. Il me semble avoir entendu en off qu'il y avait possiblement d'autres actions. Après un rapide brainstorming, il y a-t-il d'autres actions qui seraient passées sous cap ?
Alors le 17 mai à Nantes, à 15h au Miroir d'eau, il y a une mobilisation unitaire qui regroupe associations, syndicats, partis politiques, contre le centre de rétention administrative, qui est une aberration dans notre commune, c'est-à-dire que c'est un lieu où on va parquer les gens sans forcément avoir, sans qu'ils aient accès à des droits, et dans l'objectif premier, c'est de les renvoyer chez elles et chez eux sans prendre en considération le pourquoi de leur arrivée en France, ce qu'ils ont pu ou ce qu'elles ont pu quitter, ce qu'elles ont dû ou ce qu'ils ont dû quitter, et pourquoi ils arrivent en France. Et ces gens-là, s'ils ont fait tous ces trajets pour arriver en France, c'est qu'il y a souvent une très très bonne raison, c'est qu'ils fuient la misère, les catastrophes naturelles, la sécheresse, la politique, l'état autoritaire de leur pays. Et nous, en France, ce qu'on va faire avec ce type d'endroit, c'est qu'on va les parquer pendant un temps relativement long, parce qu'il n'y a pas de délai à chaque fois pour rester ou pas, et on va les renvoyer régulièrement et le plus souvent possible chez elles et chez eux.
Si jamais vous vous posez ou reposez la question « Comment agir ?», eh bien c'est simple, il suffit soit de réécouter le début de la chronique ou alors de vous dire que le 17 mai, vous pourrez participer à une formation à l'argumentaire contre les idées d'extrême droite proposée à la Maison des syndicats de 9h30 à 12h30. Vous aurez aussi la possibilité de rejoindre la manifestation anti-CRA le même 17 mai au Miroir d'eau à Nantes à 15h. Si vous avez des questions, des réactions ou des réponses à la chronique que vous venez d'écouter, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse suivante nantes@ldh-6france.org. Par ailleurs, cette chronique vous est proposée par la LDH nantaise en collaboration avec Jet FM. Et c'est grâce à ce partenariat que la chronique a vu le jour et qu'elle a perduré depuis quelque chose comme 10 ans. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le milieu culturel et le milieu associatif nantais, ces deux milieux, doivent faire face de concert à de nombreuses coupes budgétaires. Jet FM n'y échappe malheureusement pas. À tel point que Jet FM a dû se résoudre à 2 licenciements économiques consécutifs à 2 non-reconductions de contrats. Autant dire qu'en début de saison, ils et elles étaient 7 salariés à faire vivre Jet FM en plus des bénévoles. Au mois de juillet, en cours d'été, ils et elles ne seront plus que 3. Malgré ces efforts drastiques, la pérennité de Jet FM n'est absolument pas assurée. Aussi, Jet FM a lancé une campagne de dons et de crowdfunding. Donc, si le cœur vous en dit, allez donc sur le site de Jet FM, vous pourrez y participer. En attendant de bonnes nouvelles, nous vous donnons rendez-vous au mois de mai prochain, très certainement le 28 mai à 18h30, toujours au bar Personne, pour notre dernier enregistrement de la chronique. D'ici là, nous vous souhaitons de belles écoutes sur les ondes de Jet FM, la station des droits et des libertés.